Chapitre 23. Mary, le cœur palpitant, la tête remplie d'idées confuses, rentra chez elle afin de se recueillir et de chercher le moyen le plus sûr et le plus rapide d'arriver à son but. Elle éprouvait le besoin de retenir quelques instants le fil précieux qui devait l'aider à sortir du labyrinthe et de mieux se l'approprier en quelque sorte, avant de s'engager dans la voie qu'il lui fallait poursuivre. Elle allait donc prouver que Jane n'était pas coupable. Elle allait pouvoir le sauver sans que le soupçon vînt retomber sur son père. Et pourtant, si, malgré l'évidence, le jury ne croyait pas à la parole de Will, si le verdict condamnait l'innocent, que ferait-elle? Faudrait-il donc... Oh non! Toutefois, l'alibi pouvait être accepté. Will devait revenir le lundi suivant de chez son oncle, et se trouver précisément à Liverpool, au moment du procès, qui serait jugé le mardi. Mais comment le rencontrer? Comment trouver sa demeure? Elle ne se rappelait même pas le nom du navire où il devait s'embarquer. Alice, dont la mémoire avait toujours été sûre quand son cœur y avait intérêt, n'avait plus ni parole ni souvenir. Jeanne, de son propre aveu, ne savait rien de ce qui se passait autour d'elle. Que faire? Le temps pressait. La journée du samedi serait bientôt écoulée. Jem était à Kirkdale. Personne ne pouvait le voir, et d'ailleurs elle n'aurait pas osé. Mais le vaisseau de Will ne s'appelait-il pas le John Cropper? Ce nom lui revenait à l'esprit. C'était bien cela. Il le lui avait dit le soir même de son départ, et Marguerite devait le savoir. Elle fut interrompue au milieu de ses réflexions et de ses recherches par la voisine chez qui son père mettait la clé quand il avait à sortir, et qui répondait pour eux lorsqu'ils étaient absents. « Quelque chose pour toi, Mary, » dit la brave femme. « C'est un agent qui me l'a remis. » C'était un parchemin couvert de ce mystérieux grimoire dont beaucoup de gens s'effrayent. Mary frissonna de tous ses membres. L'écriture était lisible. Mais les mots n'avaient aucun sens, du moins qu'elle put comprendre. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit la voisine. « Le policeman a dit qu'il reviendrait pour savoir si je te l'avais donné. » Il était comme en peine de me laisser ce papier-là, quoique je lui ai bien dit que c'était moi qui répondais toujours quand vous n'y étiez pas. Mais tu sais lire dans l'écriture, et tu peux voir ce qu'il y a. C'est à ce que dit notre homme une assignation qu'on t'envoie, pour que tu portes témoignage aux assises de Liverpool. « Mon Dieu, ayez pitié de moi !» murmura-t-elle en pâlissant. « Ah, ne t'inquiète pas, ça n'y fera pas grand-chose tout ce que tu pourras dire, car il sera pendu, tout aussi sûr que l'autre était ton bon ami. » « Le revoir est sur un banc, » pensait Mary. « Quelle rencontre! Est-ce ainsi que j'espérais le retrouver ?»« C'est bon, » reprit la voisine, ne jugeant pas à propos de rester plus longtemps auprès de quelqu'un qui ne lui répondait pas. « Tu diras au policeman que je t'ai remis son papier. Il avait l'air de croire que je le garderais pour moi, comme si j'en avais que faire. Il est le premier qui m'ait montré de la défiance à propos de commission. Au revoir !» Mary tenait toujours le mystérieux papier sans comprendre ce qu'il pouvait contenir. Elle s'en alla trouver Job, à qui elle le montra. « C'est un subpoena, » répondit-il en regardant le parchemin d'un air de connaisseur. Car Job aimait les mots savants, et les termes de chicane ne lui déplaisaient pas. Il avait même quelques prétentions à se croire un peu légiste, ayant feuilleté parfois un volume de Blackstone, qu'il avait eu dans un lot de vieux bouquins. « Et qu'est-ce que c'est qu'un subpoena ?» demanda Mary avec effroi. Job, frappé de l'altération de sa voix, regarda la jeune fille par-dessus ses lunettes. « Un subpoena, ma chère, ce n'est ni plus ni moins qu'une assignation à comparaître devant qui de droit. À cette fin de répondre aux questions qui te seront faites concernant James Wilson, accusé de meurtre. Pas davantage, si ce n'est que la chose est dite plus longuement et plus élégamment, au grand bénéfice de ceux qui apprécient la beauté du langage. J'ai été souvent témoin dans ma vie. Ce n'est pas désagréable. Si l'on fait l'impudent avec vous, on devient insolent à son tour. Et tout est dit. C'est un prêté pour un rendu. Mais je vois ce que c'est. Tu as peur, et je le comprends. Toutefois, c'est pas grand-chose que tu pourras leur dire. Et peut-être que ta présence ne sera pas inutile. En te voyant, les jurés sentiront qu'il a dû être jaloux. « Car tu es une jolie créature, Mary, et quiconque te regardera comprendra facilement la folie du jeune homme. »« Oh, Job, ne me croirez-vous donc pas ? Je vous assure que Jem est innocent, et je le prouverai puisqu'il était avec Will sur la route de Liverpool quand le gentleman a été tué.
Qui te l'a dit, ma fille ?
Demanda le vieillard avec bonté.
Sa mère. Je vais partir pour aller trouver Will qui en portera témoignage.
Oh mon Dieu ! S'écria-t-elle en fondant en larmes.
Pourquoi ne me croyez-vous pas ? Et comment les étrangers m'écouteront-ils si les amis de Jem s'élèvent contre son innocence ?
Dieu sait que je ne parle pas contre lui, répliqua le vieux fileur d'une voix grave. Je donnerai tout ce qui me reste de jours à passer sur la terre. Je les donnerai tous pour le sauver, Mary. Tu crois que j'ai de la dureté, mais ce n'est pas au fond du cœur. Je t'aiderai si je le pouvais. Je le ferai à tort ou à raison, n'importe, dit-il en toussant légèrement.
Si vous vouliez m'aider, reprit Mary dont l'espoir renaissait tout à coup, dites-moi seulement ce qu'il faut que je dise quand ils me questionneront. J'aurai si peur, je ne saurais que leur répondre.
Dis-leur la vérité, c'est toujours ce qu'il y a de mieux.
Mais je ne pourrai jamais. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je suis sûr que je vais perdre la tête quand des centaines de gens seront là pour me regarder. Je répondrai tout de travers à la moindre question. Ils me demanderaient maintenant si je vous ai vu samedi ou dimanche, ou n'importe quel jour. Est-ce que je me rappellerai ?
Allons, allons, ne te fourre pas ces idées-là dans la tête. Ça trouble le cerveau. Ils appellent ça être nerveux, et ça ne vaut jamais rien. Mais voici Marguerite, qu'elle soit bénie, cette chère enfant. Vois donc si l'on dirait qu'elle est aveugle.
Mary tressaillit comme sous l'impression d'un vent glacé. Elle redoutait l'accueil de Marguerite, en se rappelant celui qu'elle avait reçu le matin. Elle aurait préféré les paroles les plus dures à la froideur méprisante que l'aveugle lui avait témoignée.
« C'est Mary !» dit le vieux Job d'un ton affectueux, avec l'intention d'attendrir sa petite fille.
« Elle va dîner avec nous, car je gage qu'elle n'a pas eu l'idée de se faire un brin de cuisine. Elle est pâle comme une morte. »
C'était faire appel au sentiment hospitalier si puissant chez la plupart de ceux qui n'ont presque rien à offrir, mais qui de moins partagent volontiers le peu qu'ils ont avec l'autre qu'ils reçoivent. Marguerite adressa à Mary un geste rempli de bienveillance, qui empêcha celle-ci de refuser l'offre du vieux fileur. La table mise, on dîna, sans toutefois parvenir à causer librement. Mais quand le repas fut terminé, Job revint sur le sujet qui leur tenait à cœur.
« Ce pauvre garçon, dit-il, aura besoin d'un avocat pour se faire rendre justice. Il faudra y penser. »
Mary avoua qu'elle n'y avait pas songé, et qu'elle ne croyait pas que Mistress Wilson en eût la moindre idée.
« Je viens de chez elle, » ajouta Marguerite. « Elle ne sait plus ni ce qu'elle fait ni ce qu'elle dit. La seule chose qui soit claire dans son esprit, c'est l'innocence de Jem, qu'elle affirme sans cesse. »«
Comme toutes les mères, » dit le vieux fileur.
« Elle a raison. Il était avec le neveu d'Alice, précisément jeudi soir, » répliqua Mary. « Seulement, il faudrait chercher Will, afin qu'il pût le dire au juré. »
« Ne compte pas trop là-dessus, » répliqua Job.
« Au contraire, j'y compte parce que c'est vrai. Je le prouverai d'une façon ou d'une autre, et rien ne m'en empêchera. Vous pouvez m'aider si vous voulez, mais vous ne m'arrêterez pas dans ce que j'ai résolu. »
Cette fermeté commençait à ébranler le vieux Job, et à lui donner quelque confiance aux paroles de la jeune fille. Elle le sentit, reprit courage et continua.
« Will ne part que mardi. Je le trouverai. J'irai à Liverpool. Et je lui dirai tout ce qui est arrivé. Je ne sais pas bien encore tout ce que j'aurai à dire, mais Dieu me viendra en aide, car j'agirai pour l'innocent, non pour moi qui suis coupable. Et je n'aurai peur de rien, parce que je penserai à Jem, qui est si noble et si bon. »
Mais elle s'arrêta sous le poids d'une émotion trop vive. Marguerite se reprenait à l'aimer. C'était bien la charmante créature d'autrefois, sensible et bonne, ardente et généreuse, qui avait pu faillir, mais qui se relevait plus forte et plus digne après sa faute. Elle reprit la parole.
« Je sais, » dit-elle. « Le nom du faisceau de Will, c'est le John Cropper, en partance pour l'Amérique. Mais je ne sais pas le nom de son auberge. Peut-être l'ai-je oublié. Je crois lui avoir entendu dire que son hôtesse était une bonne et digne femme. Quant à son nom, il m'est sorti de la mémoire. Tu dois te le rappeler, Marguerite. Mistress Jones, Milk House Yard, Nicholas Street. C'est là qu'il loge depuis qu'il est marin.
« Bien, Mary, bien. Tu auras toutes mes prières. » dit Job. « Ce n'est pas que je sois très régulier, quoique j'adresse un mot à Dieu de temps en temps, quand je suis très heureux ou que j'éprouve une grande peine.
je me suis surpris à le remercier après avoir trouvé certains insectes rares, ou par un de ces beaux jours qu'il nous donne et qui nous font tant de bien. Je lui parlais alors comme j'aurais fait à un ami. Aujourd'hui, je le prierai pour toi et pour Jem, et lui adresserai ma prière soir et matin, afin qu'il te protège. Marguerite en fera autant, mais c'est égal. Que penses-tu d'un avocat ?
J'en connais un, Maître Cheshire, un brave garçon qui aime assez les insectes. Nous avons plus d'une fois troqué l'un avec l'autre quelques beaux spécimens dont nous avions le duplicata. Il me rendra service avec plaisir, et je prends mon chapeau pour aller voir.
Un silence pénible régna entre les deux jeunes filles, après le départ de Job. Ce fut Mary qui le rompit la première.
« Marguerite, » dit-elle, « je vois maintenant combien j'ai mal agi. Tu ne peux pas me traiter plus sévèrement que je ne le fais depuis que mes yeux se sont ouverts. »«
Je n'ai aucun droit, » commença l'aveugle. « Si, Marguerite, tu as le droit de me juger. D'ailleurs, tu ne peux pas t'en empêcher. Seulement, sois indulgente. Tu ne sais pas, toi qui as toujours été sage, combien il est difficile de faire un pas dans le mal et quelle difficulté on a ensuite à revenir en arrière. Je ne me doutais guère, la première fois que j'écoutais Mr. Carson avec plaisir, que ça finirait ainsi. Peut-être par la mort de celui que j'aime plus que mon existence. »
Les sanglots la suffoquèrent, mais faisant un violent effort sur elle-même.
« Je ne dois pas pleurer, » dit-elle. « J'ai besoin de tout mon courage. Seulement, je t'en prie, Marguerite, parle-moi avec bonté, car je suis bien malheureuse, plus que personne ne l'imagine. Si malheureuse que je crois l'être encore plus que je ne l'ai mérité. J'ai eu tort, n'est-ce pas, Marguerite ? Mais si tu pouvais savoir combien j'en suis punie. »
Qui aurait pu résister à cette voix si touchante, à ces paroles d'un repentir si profond et si vrai ? Marguerite retrouvait son ancienne affection, et plus de tendresse encore.
Penses-tu qu'il soit sauvé ? Si nous pouvons faire que Will soit entendu, ils verront bien qu'il était innocent. N'est-ce pas un bon alibi ? Réponds-moi, Marguerite.
Je ne connais rien aux lois, dit l'aveugle.
Mais prends garde. Ne compte pas trop là-dessus, comme t'a dit mon grand-père. C'est son fusil qu'on a retrouvé près de l'endroit où le crime a été fait. C'est lui qui avait menacé Mr. Carson quelques jours auparavant. Il était dehors quand le meurtre s'est commis, et personne que lui jusqu'à présent n'a été soupçonné.
Mary soupira profondément.
Je vois bien que tu ne me crois pas. Aussi, je n'en parlerai plus. Je le prouverai. Tu regretteras alors d'avoir pu croire que Jem était coupable.
Ne t'en va pas, Mary. Je donnerai beaucoup pour me tromper. Ne t'en va pas comme ça. Tu as besoin d'argent. Les avocats sont de vraies éponges qui boivent de l'or. Il t'en faut d'ailleurs pour le voyage, pour chercher Will. Prends ce qui t'est nécessaire. Que sais-je, moi, dans le vieux pot où j'ai mis notre épargne. Tu n'as pas le droit de me refuser, car c'est pour Jem, non pour toi, que je te l'offre, et c'est pour le servir que tu vas le dépenser.
Merci bien, Marguerite. Tu es bonne. Tu as raison, c'est pour lui que je l'accepte. Mais je n'en veux pas tant que ça. Comme témoin, je suis payé de tous mes frais, et c'est assez d'un souverain. Ton grand-père fera le compte de l'avocat. Je ne veux pas m'en mêler,
ajouta-t-elle en frissonnant.
Les avocats sont si habiles,
pensait la pauvre fille.
Job, ne dit-il pas qu'ils savent toujours tôt ou tard découvrir la vérité ? Ne te gêne pas, tu aurais tort. Et puis, tu sais combien on est heureux d'obliger ce qu'on aime. C'est une faveur que je souffre bien de me voir refuser. Et c'est l'orgueil qui empêche de recevoir ce qu'on voudrait offrir si la position...
Mary ne l'écoutait pas. De la fenêtre où elle était, elle voyait revenir Job, accompagné d'un gentleman dont le regard pénétrant et la parole animée lui faisait supposer que c'était Mr. Cheshire. Ils s'arrêtèrent pour continuer la conversation qu'ils avaient commencée. Job désignait la maison. Mary trembla qu'il n'introduisît l'homme de loi. Il prit l'avocat par le bouton du gilet, tant il était familier avec lui. L'avocat piétina d'impatience, finit par se résigner, et le fit avec tant de grâce que Mary se prit à l'aimer malgré sa profession. Les paroles se pressèrent, les signes de tête, les gestes de la main, enfin... L'étranger s'éloigna d'un pas rapide, et Job traversa la rue d'un air important et satisfait.
« Eh bien, » dit-il en entrant, « j'ai vu notre homme, non pas Mr. Cheshire. Il paraît que les meurtres ne sont point son affaire, mais il m'a donné un mot pour l'un de ses confrères, un brave garçon, si ce n'est un peu bavard. Je lui ai dit ce qu'il en était. Vous avez pu le voir. Je voulais qu'il entrât pour te parler, Mary, mais il était pressé. D'ailleurs, il importe peu qu'il te voie ici ou là-bas.
Il part pour les assises lundi matin. Il verra Jem et saura de lui tout ce qui est au fond des choses. Il m'a donné son adresse. Tu devras l'aller voir, surtout Will, et ne pas manquer d'être chez lui vers 2 heures, lundi prochain. N'oublie pas ça, Mary. Lundi à 2 heures. Voici sa carte. Mr. Bridgenorth, avoué 41, Rancho Street, Liverpool.
Job s'arrêta. Son silence tira la jeune fille de la rêverie où elle était plongée.
« Comme vous êtes bon, » dit-elle. « Quoi qu'il arrive, vous ne m'abandonnerez pas. »
« Allons, ma fille, du courage. Ne te laisse pas abattre au moment où le cœur va me revenir. Notre conseil fait grand cas du témoignage de Will. Vous êtes bien sûr de ne pas vous tromper quant à ce dernier, mes enfants. »
« Oh non, il est parti pour l'île de Man. Où est son oncle ? Et sera de retour dimanche soir, c'est-à-dire demain, pour être prêt à s'embarquer mardi. »
« Et je me rappelle bien, » dit Marguerite, « que le navire se nomme le John Cropper et qu'il loge Milk House Yard. »
Mary écrivit le nom du vaisseau et l'adresse du marin sur la carte de Mr. Bridgenorth et prit congé de ses amis, non toutefois sans les remercier encore.